franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, l'émergence du mot immigré en France avec le démographe Hervé Lebras.
Elle a émergé dans les années, disons, à la fin des années 70, parce que jusqu'aux années 70, on parlait d'ailleurs de travailleurs migrants, ouais. Et pas d'immigrés ni de migrants, et ça correspondait à la réalité, ce qu'on appelait la noria, c'est-à-dire que on faisait venir, il y avait des rabatteurs qui faisaient venir des travailleurs, souvent du sud du Maroc ou de l'Algérie, lesquels restaient 3, 4, 5 ans en France, amassaient un pécule, rentraient chez eux et étaient remplacés par quelqu'un de leur village ou de leur famille. La noria, c'est cette espèce de roue qui tourne et qui permet de faire monter de l'eau pour alimenter les champs dans une grande partie de l'Afrique du Nord. Donc on avait cette habitude. Et puis en 74, avec la crise, on ferme les frontières. Et à ce moment-là, ceux qui étaient en cours de noria restent parce qu'ils ne pourront plus être remplacés. Donc il faut, au fond, ils ont un avantage à rester et à continuer à aider leur village ou leur famille. Du coup, ils demandent en 1978 à bénéficier de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire du regroupement familial. Et là, ils s'installent. Et là, ils deviennent ce que l'on appelle maintenant des immigrés. Et dans le même temps, il se passe un autre phénomène, c'est qu'à partir des années du début de 80, le nombre des étrangers en France, au recensement de 82, c'était 3 600 000. Puis au recensement de 1990, c'est toujours 3 600 000. Et au recensement de 99, c'est 3 200 000. Ouais. Donc le nombre d'étrangers diminue au moment où le Front National augmente. Il y a une sorte de paradoxe. Et à ce moment-là, certains disent « oui, mais les Français ont le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'étrangers ».
Voilà, c'est un sentiment.
C'est un sentiment. Ouais. Et donc, il faut tenir compte de ce sentiment. Et à ce moment-là, pour tenir compte de ce sentiment, on dit « eh ben, on va rajouter aux étrangers des Français d'origine étrangère, qui sont les immigrés ».
Mardi, l'affective computing, les robots pourront-ils un jour ressentir des émotions ? Avec Laurence de Villers.
Là, je dirais que l'humain qui parle de génie derrière la machine, c'est quelqu'un qui projette des intentions sur la machine. Elle n'est pas géniale, cette machine. Elle ne ressent pas, d'ailleurs, aucune émotion d'avoir gagné ou pas. Elle n'a pas de conscience de ce qu'elle fait. Elle est vraiment sur du calcul pur. C'est très différent. Il y a des intelligences. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous d'accord pour dire que l'intelligence, ce n'est pas seulement du calcul. Et il y a énormément de facteurs autres. Et moi, je travaille par exemple sur les sciences affectives, donc essayer de mettre des émotions dans les machines ou que les machines puissent détecter les émotions des humains.
On y arrive aujourd'hui ou pas ?
On y arrive très mal et de toute façon, on va, pour l'instant, on simplifie énormément le sujet. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est utile ? Dans quel cadre ça peut être utilisé ? Et c'est principalement ça qu'il faut comprendre.
Justement, ça pourrait servir à quoi, alors, de donner des émotions à des machines ?
Alors, c'est plusieurs choses. Il y a trois grands sujets dans l'affective computing, qui est né au MIT en 97. C'est en fait le fait de détecter les émotions des humains, que ce soit dans la voix, le comportement expressif, ce qui ne veut pas dire comprendre leurs émotions. C'est-à-dire qu'on détecte ce qu'ils expriment. Ensuite, c'est que la machine puisse finalement raisonner à partir de ces informations, plus à partir de ce qu'elle a compris du langage, et puis qu'elle imite, si besoin, par exemple, faire de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui souffre, être à l'écoute de quelqu'un qui est en détresse. Donc on le voit comme étant très utile dans certains cas d'assistance aux personnes âgées, par exemple, ou d'assistance dans certaines pathologies comme l'autisme.
Mercredi. Sartre et Beauvoir étaient-ils un couple polyamoureux avec Magali Crozet-Callisto et Philippe Breneau ?
C'est-à-dire qu'avec le temps, on connaît un petit peu mieux la vie de Sartre et de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Mais par exemple, tout le monde a été un petit peu surpris, et notamment les féministes, lorsque on a découvert la correspondance avec Nelson Algren, son grand amour transatlantique. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin de parler d'une relation qui était importante pour chacun. Jean-Paul Sartre avait des amours pluriels, plutôt des jeunes étudiantes, ça a été souvent le cas. Et je crois que j'appellerais ça plutôt un couple ouvert, qui était très en avance sur leur temps. C'est-à-dire qu'ils étaient une réunion de deux intellectuels. Ils avaient une fonction du couple, c'est dominer un territoire. Et la deuxième fonction, c'est de se donner la liberté que chacun puisse vivre ce qu'il voulait.
Magali Crozet-Calisto.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Ce qui est intéressant chez Sartre et Beauvoir, c'est cette notion aussi qu'ils ont pu définir d'amour nécessaire et d'amour contingente. Donc l'amour nécessaire correspondrait à ce qu'on trouve aujourd'hui chez les polyamoureux d'amour primordial. C'est-à-dire, souvent, on voit dans les cas de patients, en tout cas moi que je peux recevoir, qu'il y a au départ un couple primordial, une union officielle,
ouais.
Et puis ensuite des satellites, des amours secondaires, si on veut hiérarchiser, ou en tout cas des planètes, chacun peut inventer son vocabulaire, et ça, Sartre et Beauvoir l'ont plus ou moins déjà dit dans
voilà.
leur...
On entendra un témoignage tout d'accord. à l'heure qui justement illustre parfaitement vos propos.
La difficulté, c'est tout de même d'avoir un partenaire qui accepte cette ouverture. Et comme on est, comme la plupart des gens en Occident sont construits sur la fidélité, c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a envie de vivre le polyamour et qui se trouve devant quelqu'un qui ne peut pas le vivre?
Oui.
C'est compliqué. Les hommes, plus facilement, lèvent les interdits.
Jeudi, à quoi sert l'application Lastquake ? Avec les sismologues Rémi Bossu et Pascal Bernard.
L'application qu'on a mis en place s'appelle Lastquake. Elle est disponible aussi en français. Et en fait, le principe, c'est d'essayer de donner de l'information sur les séismes ressentis.
Mm-hmm.
Donc, ils ne représentent que la minorité des séismes qu'on enregistre, typiquement quelques pourcents de ceux qu'on enregistre.
Ouais.
Et l'idée, pour les identifier rapidement, c'est pas de se tourner vers la sismologie, mais de se tourner vers la réaction des gens. Il y a 20 ans, 25 ans, quand j'étais étudiant, les gens téléphonaient au labo. Aujourd'hui, donc on savait que quelque chose s'était produit quand les téléphones sonnaient.
Ouais.
Aujourd'hui, les gens se tournent vers Internet. Donc si vous avez un séisme, vous pouvez regarder sur Twitter, vous avez un grand nombre de tweets qui contient le mot séisme. Et notamment sur notre site Internet ou sur notre application, les témoins lancent l'application ou viennent sur le site à la recherche d'informations dans les dizaines de secondes qui suivent.
Alors prenez votre application, on va le faire en direct, puisqu'elle vient de vibrer justement.
Alors, je sais pas si c'est... c'était pas l'application, c'est seulement les mails. Mais le dernier qu'on a eu, c'était donc il y a quelques heures en Californie.
Ouais.
Donc on l'a détecté via Twitter, c'est-à-dire simplement un nombre important de tweets qui contient le mot séisme, earthquake.
Ouais.
Et
dans
la région de Californie, donc on sait. Et le grand intérêt de ces applications, c'est de ce type d'approche, c'est qu'on est plus rapide que la sismologie dans la grande majorité des cas.
Ouais.
On détecte les séismes typiquement en une minute maintenant, sans aucune information sismologique.
Quel est le nom de l'application pour
Lastquake,
voilà.
En un mot. Lastquake.
Et quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, évidemment,
voilà,
l'objet est justement. Ça, c'est un nouvel outil pour travailler pour vous, Pascal Bernard.
Alors, c'est
aussi
un outil absolument fantastique, mais il faut aussi comprendre exactement ce qu'il y a derrière, c'est interpréter la réaction des gens. Il faut non seulement des physiciens, des sismologues pour interpréter ça, mais aussi des psychologues, des sociologues pour comprendre le comportement collectif ou non collectif de ces gens qui appellent, qui se connectent et tout ça.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.